Hébreux chapitre 1er, c'est le genre de titre aujourd'hui, c'est le genre de titre qui fait dire, qui va faire dire à certains dans leur cœur, mais nous savons cela, mais nous n'avons pas le choix, nous devons dire ce que Dieu veut que nous disions. Nous allons parler du Fils de Dieu. C'est ça notre exhortation d'aujourd'hui, le Fils de Dieu, ou tout simplement le Fils. Voilà, le Fils. Puisque c'est comme ça que c'est écrit dans ce livre. Nous lisons à partir du chapitre 1er. Comme je l'ai dit, certainement beaucoup vont se dire, nous savons tous que Jésus est le Fils de Dieu. Nous savons tout cela. Mais la parole de Dieu est éternelle, immense et infinie. Et elle peut nous apporter chaque jour une facette nouvelle. C'est ça qui fait dire aux anges dans Ésaïe 6, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. » Et on nous dit qu'ils disent ça jour et nuit. Saint, ça veut dire mis à part. Donc quand ils disent Saint et l'Éternel, ça veut dire qu'ils ont vu une facette de Dieu qui met Dieu à part, qui rend Dieu, qui fait que Dieu est unique. Donc s'ils disent tout le temps Saint comme ça, jour et nuit, ça veut dire que Dieu se manifeste glorieusement, de manière diverse. Et c'est bien de connaître le Fils de Dieu. Voilà, le Fils. Il est écrit ceci, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà, l'apôtre nous explique ceci. Il nous dit, Dieu a parlé de plusieurs manières, par des prophètes, par des songes, par des anges, par des visions. Mais dans ce temps de la fin, c'est-à-dire à l'arrivée de Jésus, il parle directement par le Fils. Et le Fils, c'est lui qui est l'héritier total de son Père, donc de Dieu. Du coup, c'est lui-même Dieu. Puisque qui peut hériter totalement de Dieu, c'est lui-même. Nous n'allons pas nous employer à expliquer comment Dieu peut être le Père et le Fils à la fois. Mais nous parlons du Fils. Que le Saint-Esprit éclaire chacun. Dieu a un Fils. Beaucoup de gens pensent que l'histoire du Fils a commencé au jour où Jésus est venu sur la terre. Au fait, ils pensent que c'est en venant sur la terre qu'il est fils de Dieu. Ah non, Dieu a toujours eu un fils. Il faut savoir ça. Il a un fils. C'est très important dans la logique de la suite. Il a un fils. Et comme Paul vient de dire, ce fils-là est héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a aussi créé l'univers. Donc, Paul nous explique que avant même l'univers, avant nous, ce fils est déjà là. Et c'est avec lui que Dieu crée toutes choses. C'est par lui qu'il crée tout cela. Et c'est lui le chef de tout déjà. Avant, il a établi héritier de tout déjà. Donc, comprenons bien que c'est avant. Comment je le sais? Je le sais parce que les Écritures qui ont été faites 1000 ans avant Jésus en parlent déjà. Donc, ils ne parlent pas du Fils au moment où le Nouveau Testament commence. Au moment où on parle de Jésus par sa naissance, non, on parle du Fils bien avant. Après, nous allons voir comment on parle de Jésus bien avant. Mais nous voulons comprendre, avant qu'on le nomme Jésus, comprendre qu'il y a un Fils déjà. Voilà, nous lisons Psaume 2, verset 7. Psaume 2, verset 7. Il est écrit ceci, psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Dieu dit à quelqu'un, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voilà. Donc Dieu a un fils et Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais Dieu, comme il est éternel, son aujourd'hui n'est pas un commencement. Il est toujours dans aujourd'hui, lui, puisqu'il n'a pas de futur Dieu. Il n'a pas de passé, il n'a pas de présent. Il est toujours dans le présent, dans l'aujourd'hui. Donc quand il dit « je t'ai engendré aujourd'hui », donc d'éternité en éternité, il était en lui, il l'a engendré. Donc ce n'est pas quelque chose, pas une fabrication d'un moment, c'est d'éternité en éternité. Il y a le Fils qui a été engendré. Dieu a un Fils. Les gens, on a souvent pensé que le Fils était une invention pour nous sauver. Non, il a toujours eu un Fils. Il est toujours là. D'ailleurs, Jésus, dans Jean 8, 58, il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, comme Dieu, il a toujours été, il est le Fils de Dieu, il est le Fils. D'éternité en éternité. Et nous lisons Proverbe 30, verset 4. Ce verset-là a amené une juive à la conversion en Jésus. Comme je l'ai dit, comment nous savons qu'il a un fils? Nous ne voulons pas, dans un premier temps, utiliser le Nouveau Testament, puisqu'on va dire, mais c'est évident, puisque Jésus vient en tant que fils de Dieu. Nous utilisons l'Ancien Testament pour comprendre qu'il a déjà un fils. Déjà là-bas, on en parle. Donc, psaume 2, verset 7. Et le proverbe 30, verset 4. Proverbe 30, verset 4. Il y a une juive qui cherchait la vérité. Est-ce que Dieu peut-il avoir un fils? Parce que les gens sont choqués quand on dit Dieu a un fils. Ils disent, mais oui, mais comment il a fait pour l'avoir? Mais oui, mais comment il a fait pour nous créer? Mais voilà. Donc il y a des gens qui sont choqués parce que, comme on dit, ils font l'anthropomorphisme, donc ils humanisent Dieu, ils font de Dieu comme, ils réfléchissent sur Dieu comme s'il était un homme. Voilà, donc quand, par exemple, on dit le bras de Dieu, Dieu n'est pas un homme, mais quand le bras de Dieu, c'est une image. Voilà, alors, donc quand eux, ils pensent à Dieu, ils pensent que c'est un homme quand on dit qu'il a un fils. Mais oui, mais Dieu, qui est tout puissant comme ça, il va avoir un fils comme ça. Mais ça, c'est son problème, ce n'est pas ton problème. Lui, il dit qu'il a un fils. Donc, Proverbe 30, verset 4. Alors, quand elle a lu ce passage, elle a compris, mais oui, les Écritures disent que Dieu a un fils, sans encore accepter que ce fils-là, c'est Jésus, mais on dit clairement que Dieu a un fils. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Voilà. Donc, clairement, on parle de Dieu, puisqu'on dit qui est monté aux cieux et qui en est descendu. Qui a recueilli le vent dans ses mains? C'est Dieu seul qui a recueilli le vent dans ses mains. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Dieu seul peut serrer les eaux dans son vêtement. Donc, il est plus immense que les eaux. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Donc, on dit bien clairement que ce Dieu-là, il a un nom, mais il y a aussi son fils qui a un nom. Il a un fils. Par la suite, bien-aimés, nous allons lire beaucoup d'autres versets, mais nous allons être simples pour ne pas donner trop à la foi. On donne d'abord ces deux-là pour dire Dieu a un fils. Avant même qu'on parle de Jésus, on sait par ces deux versets, psaume 2:7, proverbe 34, que Dieu a un fils. Et ça va toujours en montant. Nous lisons Ésaïe 9, 5 à 6. Ésaïe 9, 5 à 6. C'est écrit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son trône, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc on nous parle d'un fils qui nous est donné. C'est un enfant qui est né, d'accord? L'enfant est né un jour à Bethléem. Mais on dit que c'est un fils qui nous est donné. En quelque sorte, il était fils et on nous le donne en cadeau. Un fils nous est donné. Ce fils-là, on l'appelle Dieu puissant. Mais si on peut appeler un humain Dieu puissant, c'est que c'est le fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. On l'appelle Dieu puissant. Nous savons bien que Dieu ne peut pas accepter. Dans sa parole, il dit, il ne donne sa gloire à personne dans Ésaïe 42, 8. Toujours dans sa parole, il dit qu'il est Dieu et à côté de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc si on appelle ce fils-là qui est donné Dieu puissant, donc c'est lui le fils de Dieu. Dieu a un fils. C'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de lire dans Hébreux chapitre 1er, ben Dieu a créé toutes choses avec ce fils-là. C'est écrit aussi dans Jean chapitre 1er. Nous lisons dans Jean chapitre 1er. Maintenant, nous prenons le Nouveau Testament. On a commencé par l'Ancien Testament pour comprendre que Dieu a un fils. Maintenant, le Nouveau Testament nous explique que ce fils-là, c'est Jésus. Maintenant, nous allons voir, retourner encore dans le Premier Testament pour comprendre que on parle déjà de Jésus. Parce que les gens vont dire, mais c'est nous qui avons décidé que Jésus soit le fils. Je recommence. Dieu a un fils. Le Nouveau Testament nous dit, c'est Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va encore retourner dans l'Ancien Testament pour montrer que même l'Ancien Testament montre que c'est Jésus. Voilà. Nous lisons Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Il est écrit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà ce que nous dit la Bible. Au commencement, la parole était la parole. Donc, au début de tout, c'est la parole. Mais qui est cette parole? La parole était avec Dieu. Et la parole, c'était Dieu lui-même. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par qui? Par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. Donc, on comprend de l'autre côté, Paul, dans Hébreux, il dit, tout a été créé par le Fils, avec le Fils. Maintenant, qui est cette parole? Nous lisons au chapitre 14, au verset 14, toujours du même chapitre. Et la parole a été faite en chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Donc, cette parole est venue en chair. Et nous avons contemplé sa gloire, et cette personne-là, c'était le Fils unique venu du Père. C'est très important, on dit le Fils unique. Donc c'est le seul Fils que Dieu a. Après, il va nous adopter, mais le Fils naturel que lui a, c'est un seul. C'est le Fils unique. C'est la parole faite chair, Jésus. Mais nous appelons, nous disons le Fils, et je crois Paul, quand lui fait l'épître d'Hébreux, il insiste sur le mot, le terme, le Fils, pour différencier le fait que Jésus de Nazareth est le Fils fait homme, mais qu'il a toujours été Fils, avant qu'il soit Jésus de Nazareth. Le Fils existe. C'est pourquoi Paul, dans le chapitre premier qu'on a lu, il appelle le Fils. Le Fils, le Fils, il dit pas Jésus. Si vous remarquez bien. Il dit le Fils parce qu'il veut faire comprendre que ce n'est pas une invention des chrétiens. C'est une réalité de depuis toujours. Qui se trouve dans le psaume 2. Donc il donne le psaume 2, il dit, mais voilà, cette réalité se trouve... Quand on a lu Hébreux chapitre, parce que ça, c'est ça notre texte de base. Donc même si vous êtes à la maison, vous voulez réétudier cette prédication, vous reprenez toujours Hébreux chapitre 1er. Donc il explique donc tous les versets que moi je vais donner après, la plupart sont déjà dans Hébreux chapitre 1er. Paul utilise ça pour dire, ben voilà, le Fils est déjà là depuis le départ. Ce n'est pas une histoire de... Bethléem un jour. Bethléem, c'est à cause de quoi? C'est à cause de nos péchés. À cause de nous que le Fils a décidé de venir en chair. C'est à cause de ça. Il est écrit donc au Hébreux chapitre 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est important. Il dit pas par Jésus, mais par le Fils. Parce qu'il existe avant qu'il soit Jésus. Avant qu'il porte le nom de Jésus, il existe en tant que Fils de Dieu. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Vous allez dire que Paul et Jean se sont consultés. Non, ils se sont pas consultés. C'est une vérité éternelle. Donc c'est par le Fils que Dieu a créé l'univers, par la parole. Et cette parole-là, c'est le Fils de Dieu. Dieu a créé l'univers. Et merci Seigneur, nous savons que tu as un Fils. Et on nous demande de connaître son nom. Donc quand on lit dans le Proverbe 30, on dit, mais qui est ce Dieu-là? Et qui est aussi son fils? Sous-entendu, tu ne peux pas connaître ce Dieu et négliger son fils. Et c'est ce que, il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, entre le verset 20 et 23, il s'est dit, mais celui qui ne reçoit pas le fils ne reçoit non plus le Père. Tu peux pas dire tu crois en Dieu et tu négliges son fils. Donc Proverbe 30 est clair. Quel est son nom? Donc quel est le nom de ce Dieu-là? Eh bien, quel est le nom de son fils? Donc on doit connaître le fils de Dieu. De même qu'on connaît Dieu, on doit connaître son fils. Peut-être qu'il faut qu'on lise 1 Jean 2. Bon, c'est les gens de la vidéo n'ont pas ce verset-là, je n'avais pas donné. Mais bon, c'est important de voir. En fait, après, on comprend tout le texte. Donc, quand on lit Proverbe 30, on nous dit, mais quel est le nom de son fils? Donc, on comprend qu'il y a une importance. Il faut connaître ce fils-là. Il faut le connaître. Et dans 1 Jean 2, il est écrit au verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist, l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. C'est clair, bien-aimé. Tu ne peux pas connaître Dieu et négliger son Fils. Donc, si tu rejettes le Fils, tu as rejeté aussi le Père. Voilà ce que nous disent les Écritures. Dieu a un Fils. Maintenant, Paul dit, au commencement, Dieu nous parle par qui? Par les prophètes. Au début, par les anges, les prophètes et toutes sortes de messagers. Il a dit, oh, bonne nouvelle. Cette fois-ci, il nous parle par le Fils. Je pense que après, en relisant la Bible, on va comprendre pourquoi il y a une insistance sur le Fils de Dieu. Donc là, on a lu Proverbe 30, on a lu 1 Jean 2. Vous allez comprendre, c'est très, très, c'est capital. On ne peut pas négliger le Fils. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent, ah, mais oui, on n'est pas obligé de parler de Jésus. On peut parler juste de Dieu, comme ça. Dieu, il est tout puissant. Dieu. Mais non. Il est écrit. Est-ce que tu connais son nom? Est-ce que tu connais le nom de son Fils? Voilà. C'est écrit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. On ne peut pas. Le Fils, c'est lui l'héritier de toutes choses. On vient de lire. Hein? C'est lui l'héritier de toutes choses. Ça nous permet de comprendre toute la Bible, l'histoire du Fils et de son Père. Et finalement, l'histoire de l'humanité. Et il nous est dit quoi? Que c'est à cause de nos péchés qu'un jour le Fils a dit, bon, je suis obligé de venir et chercher. Nous lisons dans Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59. 13 à 16. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ce bras-là, il s'agit de son fils. Parce que quelque part, on va lire que le fils est assis à la droite de son père. Donc c'est lui le bras de l'Éternel. Il lui vient en aide. Donc, puisque le monde est pourri, Dieu a envoyé les prophètes, il a envoyé toutes sortes de personnes, mais les gens, finalement, ne changent pas. Finalement, la vérité trébuche. Finalement, l'injustice règne. Alors, son fils a dit, c'est moi qui vais partir. Dans le psaume 40, on en parle aussi. Excusez-moi encore les gens de la vidéo, je n'ai pas donné ce passage. Le psaume 40, dans le psaume 40, c'est écrit. Le psaume 40 nous permet de comprendre Ésaïe 59 qu'on vient de lire. Et alors son bras lui vient en aide. C'est écrit dans le psaume 40, ceci, à partir du verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Alors, ce passage est aussi prophétique. C'est le Fils qui parle. Il dit à Dieu, tu n'as plus envie de tout ce que les prophètes, les prêtres ont établi avant. Tu n'as plus envie de ça. Les sacrifices sont corrompus. Alors, moi-même, je dis, me voici. Le Fils a décidé de venir lui-même en homme pour faire la joie de son Père. Puisque les hommes ne pouvaient plus faire la joie de son Père, lui-même, il a décidé de venir faire la joie de son Père. Nous comprenons la réalité qui est là. C'est ce que l'apôtre Paul décrit dans, au chapitre 1er du livre d'Hébreux. Il dit, après avoir parlé par les prophètes, par toutes sortes de messagers, Dieu nous parle maintenant par le Fils. C'est-à-dire que tout ce qu'ont fait les anges, les prophètes et les autres, ça n'a pas abouti. L'homme continue dans le péché et Dieu ne veut plus voir l'homme. Dieu ne veut plus, n'apprécie plus les sacrifices. Il n'apprécie plus les prières. Alors le Fils a dit, cette fois-ci, moi-même, je veux venir afin de faire ta volonté, afin de t'être agréable, afin que mon Père ait de la joie. Cette fois-ci, moi-même, je viens. Je veux me consacrer à mon Père. Voilà ce que le Fils a décidé de faire. Je veux me consacrer à mon Père. Donc, il va accomplir la loi. Il a dit, ta loi est dans mon cœur. Parce que les autres n'ont pas respecté la loi de Dieu. Et le Fils dit, moi, je viens pour la respecter. Vous vous souvenez maintenant de la parole de Jésus quand il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, la respecter. C'est une prophétie qui se trouve dans le psaume 40. Ta loi est au fond dans mon cœur, donc tu n'as plus voulu de sacrifices. Tout ce que les humains faisaient de religieux, Dieu n'en a plus voulu parce qu'il y avait le péché. L'homme ne respecte pas sa loi, mais il amène des sacrifices. Dieu dit non. Et notre Dieu était triste. Son Fils a dit, moi je veux venir pour accomplir ta volonté. Je veux venir pour t'être agréable, que tu aies un sujet à te réjouir. Mais quelle joie pour son père de voir son fils l'aimer autant qu'il vienne sur terre, une terre remplie de péchés, de souillures. Et son fils vient pour faire la volonté de son père. Et le père savait que celui-là, il ne va pas échouer. Le Fils lui-même descend. C'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe au baptême de Jésus dans Luc 3, hein, au verset 21, 22, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix qui jaillit du ciel qui dit, Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Parce que comment ne pas aimer celui qui vient pour t'honorer, pour faire ta volonté? Tu es mon fils. Toute mon affection est sur toi. Voilà la relation entre le Père et le Fils. Le Fils a vu que son Père était attristé de voir le péché sur la terre, malgré le bon travail des prophètes, malgré le bon travail de Moïse, malgré le bon travail des anges. Il a dit, moi-même je veux venir régler la question. Le Fils est venu faire le meilleur travail. Il est venu achever le travail des prophètes et par faire cela, en se donnant, Ésaïe 9, 5 à 6 nous dit quoi? Un fils nous est donné en se donnant. Pas juste en enseignant, puisque les prophètes, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus prêcher la parole de Dieu. Mais Jésus vient se donner entièrement. C'est pas une histoire d'enseignement. C'est pas seulement la prédication. Mais c'est sa vie qu'il offre. Comme on a pris la Sainte-Cène tout à l'heure, il a dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Et ceci est mon sang, coulé pour vous. Il vient s'offrir. C'est ça la grande différence. Le Fils ne vient pas seulement prêcher, prophétiser, mais il vient s'offrir. Un Fils nous est donné. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné un prédicateur. Il a donné son Fils. Tout l'être de son Fils a été donné aux humains comme cadeau, afin que les choses changent, afin que Dieu retrouve le sourire par l'œuvre de son Fils dans la vie des humains. C'est pourquoi dans le psaume 2, qu'est-ce qu'on lit? On a déjà lu. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi quoi? L'humanité, demande-moi les nations en héritage, je te le donne. Donc le Fils vient pour faire des nations des gens qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi lui-même, quand il s'en va, il nous dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des gens qui vont plaire à Dieu. C'est sa mission à lui. Demande-moi les nations, je te le donne en héritage. Le Fils de Dieu. C'est ça son travail. Demande-moi les nations. Donc Jésus vient pour être agréable au Seigneur. Et nous allons lire un autre verset qui parle du Fils de Dieu avant de continuer. Psaume 45, 2 à 8. Psaume 45, 2 à 8. C'est le fils de Corée qui était inspiré par ce psaume, pour donner ce psaume. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Maintenant, ils vont commencer à parler. Ils parlent de qui, là? Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. Mais est-ce qu'on peut glorifier un homme? Non, dans la Bible, on ne glorifie pas les hommes. Ce n'est pas comme les autres livres. La Bible ne glorifie que Dieu. Mais là, on glorifie un homme. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais comment Dieu oint Dieu lui-même? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ça veut dire que il s'agit du Fils de Dieu, tout simplement, puisqu'on dit que tu es le plus beau des fils de l'homme. Donc c'est le Fils de Dieu qui devient homme. Et il devient donc le plus beau des fils de l'homme. Mais il reste Dieu, puisqu'on l'appelle Dieu, on dit ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Il a aimé la droiture. Jésus a aimé la droiture. La droiture, c'est aussi respecter Dieu comme étant l'origine de tout, le créateur de tout. Ce que nous, les humains, nous ne voulons pas. Lui, il dit non, moi je vais honorer mon Père. C'est lui le créateur. C'est lui l'origine de tout. C'est lui la source. Moi, je viens le faire. Donc, il a aimé la justice. Les hommes sont méchants, orgueilleux. Chacun fait comme s'il était propriétaire de ses biens. Chacun fait comme si sa vie était à lui. Mais Jésus dit non, moi je viens honorer Dieu. Désormais, les gens verront en face quelqu'un qui honore Dieu. Quelqu'un dont la vie appartient réellement à Dieu. Parce que quand on dit ça, que les hommes sont méchants ou orgueilleux, la plupart d'entre les gens qui sont dans les églises, ou bien ceux qui écoutent, ce que je dis, ils disent, ah oui, hein, les Sarko, les Macron, les je ne sais pas qui. Ah oui, les Jacques Messrine. Mais non, 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 les méchants et les orgueilleux, c'est les gens qui vivent comme si leur vie était à eux. Donc il y en a beaucoup dans les églises. C'est les gens qui vivent non conscients que tout est à Dieu, qu'ils sont à Dieu. Il est écrit, vous ne vous appartenez pas. Car vous avez été racheté à un grand prix. Et même si ce n'était pas écrit, j'appartiens à celui qui m'a créé. C'est logique, bien aimé. On n'a même pas besoin d'un verset. Déjà que nous, on n'a même pas fabriqué nos chemises. On ne les a pas cousues. Mais on les a juste achetées. Mais on considère que c'est à nous. On en fait ce qu'on veut. Mais maintenant, quelqu'un qui t'a créé, ça va être quoi alors? Mais regardez la vie des chrétiens. Est-ce qu'ils vivent comme le Fils? Non, 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 non. Le Fils a dit, je viens pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Alors je dis, me voici. Mais voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Ça, c'est le Fils. Il dit, Dieu n'a plus voulu de ce que les humains font avec un cœur égoïste, avec un cœur non reconnaissant, avec un cœur compliqué. Dieu dit, non, non, mon Fils va venir m'honorer. Les gens verront qui je suis à travers l'honneur que mon Fils va me donner. Le Fils est venu en homme. Déjà, c'est grave qu'il se rabaisse comme ça, venir en homme. Il a été rabaissé. Mais pour plaire à son Père, pour qu'il y ait un homme qui soit le plus beau, le parfait, tu es le plus beau des fils de l'homme. Il est venu pour être l'homme parfait. C'est pourquoi la Bible l'appelle comment? Le second homme. Le premier homme, c'est Adam, et nous sommes des Adams. Et le second homme, c'est Jésus-Christ. Et quand on se convertit, on est censé devenir un second homme, une nouvelle création. Tout est relié, bien-aimé, tout est lié. Il est venu pour être l'homme selon l'image de Dieu, véritable, le plus beau des fils de l'homme. Mais nous ne comprenons pas ces choses-là, nous menons nos vies comme une religion, avec un contrat, je viens à l'église, je fais la prière de la conversion, mais bien aimé, il faut comprendre qui est le Fils. Parce que si tu comprends qui est le Fils, tu comprends aussi que désormais, c'est ce que Dieu attend de toi. Puisque tu es appelé aussi Fils de Dieu, tu es appelé aussi Fille de Dieu. Si tu comprends le Fils, comment il était dans la gloire, et qu'il est venu, pourquoi il est venu? Pour que Dieu enfin ait un homme agréable à sa vue. Enfin, Dieu peut contempler un homme agréable, dire, voici mon Fils bien-aimé,
toute mon affection est pour lui.
Enfin, il peut sourire. Enfin, il peut regarder les anges et il y a la joie dans son visage. Regardez mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'aime mon fils et le fils aussi aime le papa. Et le fils a vu la détresse du papa. Il est venu afin qu'il y ait un homme, le plus beau des fils de l'homme. Et il est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a oint plus que les autres. Et mais vous savez, quand on écrit, ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. À cause du fait que Jésus a considéré que tout était à son Père, que lui-même il était à son Père. Alors que Philippiens 2 nous dit qu'il pouvait se targuer d'être l'égal de son Père, il a dit non, c'est le Papa. Ça, c'est l'amour du Fils. Il y en a qui veulent l'utiliser pour dire, mais comment se fait que lui, il est Dieu, mais en même temps, il dit que le Père est supérieur à lui. Mais c'est l'amour du Fils. Il n'est pas comme nous. Nous, si on était à sa place, ça serait grave. On a vu ça avec Adam dans le jardin d'Éden. À peine on lui a donné l'autorité sur les animaux, sur tout ça, il s'est crié Dieu. Mais le Fils, qui est Dieu, il n'a pas choisi comme Philippiens 2. Vous savez, il y a tant de textes, mais cet enseignement est donné pour que chacun, pendant un mois, relise les Écritures. Et en relisant comme ça, je nous préviens que le Seigneur va nous transformer à l'image de son Fils. Parce que c'est ça son désir. Qu'en contemplant son Fils, c'est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18, nous tous les visages dévoilés qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Donc tous ces textes que je suis en train de citer, quand vous allez relire, savoir comment le Fils est, et que vous vous souvenez que vous aussi on vous appelle Fils, vous aussi on vous appelle Fille, je crois que ça va germer une certaine honte à dire non, je dois ressembler au Fils vraiment, au Fils de Dieu. Il est venu pour une seule raison, c'est quoi? À être agréable à son Père. Oui, après on va lire qu'il est venu pour nous sauver. Mais pour nous sauver, pourquoi? Parce que c'est ça qui était agréable à son Père. C'est l'amour pour son Père. C'est l'amour pour son Père, tout simplement. Il nous aime parce que son Père nous aime. Et du coup, il nous aime comme son Père nous aime. C'est ça l'amour de Dieu. Il n'est pas jaloux de nous. Puisqu'il savait que son Père allait faire de nous des fils. Mais lui n'est pas jaloux. Il est heureux d'avoir des petits frères et des petites sœurs. C'est ça l'amour du Fils. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ce n'est pas la beauté physique. Puisque dans Ésaïe 53, on dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer le regard. Il s'agit d'une beauté en esprit, une beauté de gloire. Mais aujourd'hui, les gens mettent tous leurs efforts pour être beaux physiquement et belles physiquement, alors que Jésus avait une beauté qui était une beauté de gloire. Tout simplement. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ton Dieu t'a oint plus que les autres. C'est parce qu'il a aimé la justice. Il n'a pas voulu la méchanceté. Comme je l'ai dit, la méchanceté, ce n'est pas faire des attentats, tuer, faire du terrorisme seulement. La méchanceté, c'est vivre en ignorant que j'appartiens à Dieu. On fait ses plans, ses projets, ces trucs qu'on oublie, qu'en réalité, que devait être notre façon de vivre. Mais comme le Seigneur Jésus, tu entres dans la terre pour faire la volonté de Dieu. Je suis né pour faire sa volonté. Qu'il puisse dire, mais tiens, j'ai créé réellement un homme à mon image pour faire la joie de notre Père. Mais chacun fait. Chacun est dans ses affaires. On se souvient de la parabole des invités. Le roi fait une grande fête. Il appelle les invités normaux, dont les gens qui le connaissent, les gens qui le côtoient, mais chacun était dans ses affaires. Mais tiens, j'ai un mariage à gauche, j'ai telle chose à faire. Un autre est dans telle affaire commerciale. Mais le roi a dit quoi? Il a pris ses serviteurs, il a dit, allez me chercher les gens qui n'étaient pas dignes, qui sont dans les rues, les éclopés, les mendiants, amenez-les, et que ma maison soit remplie. Bien-aimé, c'est un avertissement pour tous ceux qui connaissent Dieu. Vous dites que vous connaissez Dieu, mais vos vies vous appartiennent. Vous refusez donc l'invitation du roi à la justice. La justice, c'est dire c'est Dieu qui va gérer désormais ma vie. En tout point, c'est ça la justice, parce que c'est lui qui est le créateur de cette vie et le sauveur de cette vie en même temps. Donc pour nous encore, c'est plus grave, nous les chrétiens. Mais qui fait ça? Mais Jésus l'a fait. Lisons le... ça aussi, ce n'était pas dans la liste. Mais je vais nous montrer combien les Écritures sont reliées. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Non, excusez-moi. Jean 3, 34. Donc, c'est voilà, un verset avant. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Je peux commencer à partir du verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. C'est Jean qui parle de Jésus. Il dit, lui, il vient d'en haut. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Donc tous les autres prophètes, nous tous, nous sommes de la terre. Mais Jésus vient d'en haut. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. C'est ça la différence. Nous, nous disons ce qu'on nous a dit. Mais lui, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage, malheureusement. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc Dieu nous a donné à nous tous l'esprit avec mesure, mais lui, c'est ce qui est écrit dans le psaume 45, verset 8, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues, donc il t'a oint d'une manière élevée, plus que tes collègues. Les collègues de Jésus, c'est nous, mais Dieu lui a donné à lui, Jésus, une onction beaucoup plus élevée. Et le Jean 3, 34 nous dit sans mesure, c'est-à-dire que tout l'Esprit de Dieu, toute la puissance de l'Esprit de Dieu lui avait été donnée. Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Voilà, Jésus en parle dans Luc 4, 18. Tout l'Esprit de Dieu a été posé sur lui, sans mesure. C'est ce qu'on retrouve dans le psaume 45, verset 8. Voilà l'histoire du Fils qui vient pour faire la volonté de son Père. Être un homme qui sera agréable à son Père. Mais ce n'était pas que ça la volonté de son Père. Trouver un homme intègre. La volonté de son Père, c'était aussi de sauver ceux qui étaient perdus. Voilà la volonté de son Père. Sauver aussi ceux qui étaient perdus. Quelle a été la volonté de son Père? Mais détruire les œuvres du diable aussi. Parce que qui a corrompu les autres humains? C'est le diable. Donc on ne pouvait pas sauver les humains sans détruire les œuvres du diable. Ça va ensemble. Et c'est là que nous arrivons au plan du salut de Dieu. Donc l'histoire du Fils et du Père
Qu'est-ce qui fait le ciment entre leurs relations? C'est notre histoire. Hein? C'est notre histoire qui fait un ciment extraordinaire de la relation du fils et de son père. C'est-à-dire que le fils a accepté de s'humilier, de venir comme un ver de terre. Il s'est rabaissé. Pourquoi ? Pour faire la volonté de son père. Produire par lui-même, un être, un humain agréable à Dieu. Mais aussi sauver les perdus. Les gens qui avaient été conquis par Satan, les récupérer. Donc ça va ensemble. Être agréable à Dieu. Sauver les perdus en détruisant les œuvres des ténèbres. Ça va ensemble. Quelqu'un ne peut pas dire, ah oui, nous on fait que prêcher l'évangile, on ne peut pas détruire les œuvres des ténèbres, ce n'est pas notre boulot. Ah non, ça va ensemble. C'est dit dans 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. C'est dit clairement. Et donc nous arrivons au plan du salut. Le plan du salut qui fait que aujourd'hui, nous nous sommes sauvés. Donc, quand le Fils décide de venir, un plan est fait. Que finalement, en venant un homme agréable à Dieu, il devenait capable d'être le sacrifice, le remplacement idéal pour les autres humains. Donc, quand il vient un homme parfait, il peut maintenant prendre la place des imparfaits. Puisque lui, il est parfait, lui, il est sans péché. Voilà le plan pour notre salut qui se dresse. Et voilà que notre histoire est intimement liée à l'histoire du Père et du Fils. Parce que quand Jésus fait cet acte-là, ça fait la joie extraordinaire de son Père. Il se donne lui-même. Et nous lisons dans Genèse 3, 15. Donc nous commençons par montrer le plan du salut où, avant qu'il ne vienne, parce que si on dit, on parle du salut de Dieu en utilisant que le Nouveau Testament, les gens vont dire, c'est une invention des chrétiens. Pour montrer que ce n'est pas notre invention, ça a été dit avant que Jésus ne vienne. Nous le voyons donc, on commence par Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse? L'homme a péché. Et il est chassé du jardin d'Éden. La malédiction est tombée sur lui. Les douleurs commencent. Les souffrances commencent. Et la mort. L'homme devient mortel. Physiquement. Et qu'est-ce qui est dit au verset 15, malgré cela? À peine Dieu juge l'homme, Dieu frappe l'homme de la malédiction, à peine il a déjà un plan de salut. Parce que comme je nous l'ai dit, Dieu n'a pas de futur, donc tout se fait dans le présent avec lui. Donc à peine il juge, à peine il y a le plan de salut qui est déjà là. Et ce plan est expliqué au verset 15. Souvenons-nous, Genèse c'est le premier livre de la Bible. Alors que le Nouveau Testament commence avec Matthieu. Donc on ne dira pas que c'est les chrétiens qui ont écrit ce qu'on lit. Non, ce n'est pas eux. Ça a été écrit par le peuple de Dieu, les Juifs. Voilà. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu est en train de parler à qui ? À Satan, nous lisons verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Puisqu'il a fait quoi? Puisqu'il a séduit l'homme. Il a entraîné l'homme dans le péché, du coup, dans la déchéance et dans la dégénérescence. Alors Dieu dit, tu es maudit. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'opposition, la guerre entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre ta descendance c'est-à-dire les démons, les fils, les ouvriers du diable et la postérité de la femme, la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent blessera le talon. On dit bien le talon pour qu'on comprenne qu'on parle que d'une seule personne. Donc la descendance de la femme, c'est une personne. On ne parle pas de tout le monde. Puisqu'il n'y a qu'un talon là. On dit, toi tu lui blesseras le talon, lui t'écrase la tête. On est en train de parler d'une personne qui va écraser la tête de Satan. Mais par ce geste-là, il va se blesser le talon. C'est ce que Jésus a fait où? À la croix. Dans Colossiens 2, 14 à 16, on nous dit que c'est à la croix qu'il a dépouillé les forces des ténèbres. C'est à la croix qu'il les a livrées en spectacle. Mais en même temps, lui, il était blessé aussi, puisque son sang a coulé. En même temps, lui, il a souffert, son talon a été blessé, mais c'est par le même talon qu'il écrase la tête. Donc, c'est par l'œuvre de la croix que Christ est blessé, mais c'est par cette œuvre de la croix que la tête du serpent est écrasée. C'est pourquoi c'est écrit d'Apocalypse 12, 11, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est là qu'il se blesse, il est blessé, mais lui, il écrase la tête du serpent. Il triomphe d'eux. C'est pourquoi il a dit, en mon nom, nous chasserons les démons, puisque tout s'est passé à la croix. De sorte que quand on rappelle ça, les démons sont obligés de lâcher prise. C'est écrit dans la parole de Dieu, Genèse 3, 15. Il y a beaucoup de textes, bien-aimés. Nous allons lire Exode 12. Pour voir que le plan du salut existait déjà là. Par le Fils. Qu'est-ce qui est écrit dans Exode 12? Quel est le contexte d'Exode 12? C'est que Moïse a fait quoi? Il a fait au moins 8 miracles pour sortir les enfants d'Israël. Même 10, 9. Les grenouilles qui sont sorties, l'eau du Nil qui se transforme en sang, les poux, les grêlons, le feu qui tombe du ciel. Mais malgré tout ça, est-ce qu'ils ont été libérés? Non. Pharaon a résisté. Il a refusé de libérer les enfants d'Israël. Et on arrive à un dernier acte que Dieu va faire à travers Moïse. C'est qu'il va tuer les premiers-nés égyptiens. Mais comme tous les hommes sont pécheurs, Dieu doit, dans sa justice, tuer aussi le premier-né juif. Or, c'est eux que lui veut sauver. Donc, c'est la même chose que nous. Si Dieu veut être juste, il doit nous éliminer, nous tous. Mais c'est nous qu'il veut sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt frappé son propre fils à notre place. Et c'est là l'histoire de l'agneau qu'on va lire là. Donc, au lieu que les enfants d'Israël soient éliminés, le premier-né, c'est plutôt un agneau qui va être frappé à leur place pour couvrir le péché, de sorte que quand l'ange de la mort vient pour frapper, quand il va voir le sang sur le poteau, il ne touche pas aux enfants d'Israël. C'est ainsi qu'il est écrit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc tout est relié. Nous lisons au verset 12 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. » Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Qu'est-ce que ça veut dire entre les deux soir, puisque on leur donne cet ordre de l'immoler entre les deux soirs. Je crois que chacun a compris de sa manière. Et dans, par exemple, dans ce livre, on dit peut-être l'intervalle entre le coucher du soleil et la fin du crépuscule. Enfin, bon, bref, voilà. Mais ce n'est pas deux soirs, c'est un seul soir, là. C'est toujours un seul soir. Cet agneau-là devait être immolé, c'est-à-dire on devait sortir son sang, couler son sang entre deux soirs. Ce passage-là n'a jamais été compris clairement. Ils l'ont fait le soir, tout simplement. Mais ça n'a jamais été compris. Ça veut dire quoi, deux soirs, entre les deux soirs? Jusqu'à ce que le véritable agneau, dont il est dit dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Donc le véritable agneau. Pourquoi Jean-Baptiste appelle Jésus agneau? Parce que Jean-Baptiste est un juif. Il connaît cette tradition de l'agneau de Exode 12. Quand il voit Jésus, il voit prophétiquement le sang sur lui. Il dit, c'est lui le véritable agneau. Et enfin, la prophétie, l'ordre d'accomplir entre les deux soirs va s'accomplir. Quand est-ce que Jésus est mort? Avant qu'il meure, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Et quand il meurt à 15h. Donc il y a eu les ténèbres à 15h. Mais ensuite, le vrai soir est venu à 18h. Donc il y a eu deux soirs ce jour-là. Donc il a été immolé entre les deux soirs. Un soir qui est venu à 15h par la puissance de Dieu, les ténèbres ont rempli la terre. Ensuite, je crois que ça s'est dissipé un peu. Et puis le vrai soir est venu à 18h. Enfin, le commandement est accompli afin que nous tous nous comprenions quoi? Que l'agneau dont il est question d'Exode 12, le véritable c'est qui? C'est Jésus. Parce que ce n'est qu'avec lui seul que ce commandement-là, cet ordre-là s'accomplit. Jésus est l'agneau de Dieu. Exode 12 nous le montre. Jésus est le vainqueur de Satan et le sauveur des humains. Et Genèse 3:15 nous le montre. Il va écraser Satan, c'est lui. La descendance de la femme. Donc un enfant qui va naître d'une femme va écraser la tête du serpent. Mais il va être blessé en même temps. C'est à la croix. Il y a beaucoup de textes. Lévitique. Qui a déjà lu Lévitique un tout petit peu? Qu'est-ce qui est fatigant dans Lévitique? Il n'y a que des sacrifices. Que des sacrifices. C'est une façon de nous dire quoi? Le salut viendra par un sacrifice. Le salut ne viendra pas d'une autre manière, ne viendra pas par des beaux discours. Le livre de Lévitique est tout entier pour nous dire le salut viendra par un sacrifice. Et c'est ce qui faisait fait à la croix. Deutéronome, n'en parlons pas. Deutéronome 18 nous parle d'un prophète qui doit venir. Donc on ne va pas lire tous les textes. Nous allons directement dans Michée, dans Ésaïe 7, 14. Dans Nombre aussi, on parle du Seigneur par Balaam. Dans tous les livres, on parle de lui. Lui-même le dit, tous les livres parlent de moi. Nous lisons Ésaïe 7, 14. Qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 7, 14? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Donc, la naissance de Jésus par une vierge, la naissance d'un enfant par une vierge est déjà donnée, prophétisée 700 ans avant que Jésus ne vienne. Michée 5, 1 en 2. Pourquoi nous lisons tout ça? Bien-aimés, pour que nous comprenions que le plan de notre salut est déjà dessiné comme il faut, avant même Jésus vienne. Ce n'est pas une invention des chrétiens, c'est dans les Écritures. Michée 5, 1 à 2. Qu'est-ce qui est écrit? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, De Bethléem sortira quelqu'un qui va dominer sur tout Israël, mais les activités de cet humain-là, de cette personne-là, remontent au jour d'éternité, donc c'est un humain éternel. Et c'est qui est l'humain éternel? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Donc tout est déjà dans la parole de Dieu. Avant même qu'il vienne, ce n'est pas un accident de l'histoire. Nous lisons Ésaïe 53. On ne pouvait pas ne pas le lire. Ésaïe 53. Il est écrit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son tombeau, son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc on prophétise sa résurrection et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Voilà, et il nous est fait état clairement de la vie de Jésus, de ses souffrances pour nous amener au salut. Clairement dans Ésaïe 53. Qui en lisant Ésaïe 53 ne peut pas reconnaître l'œuvre de Jésus? Mais tout ça a été écrit 700 ans avant. C'est pour nous dire, bien aimé, le plan de notre salut par le Fils est déjà fait depuis Genèse. Le plan est là déjà du salut. Et lui va venir un jour concrétiser cela. C'est pourquoi nous repartons maintenant dans le Nouveau Testament. Nous lisons Jean chapitre 3 verset 16 que nous connaissons par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors donc maintenant, le Fils arrive. Hébreux 1, Paul dit, avant c'était les prophètes, avant c'était les anges qui ont fait le boulot. Avant il y a eu des messagers, des prêtres, des sacrificateurs. Mais cette fois-ci, c'est le Fils lui-même qui vient. À partir de ce moment-là, vous voyez toute la liste de prophéties qui allaient s'accomplir. Du moment que le Fils venait, Genèse 3:15 allait s'accomplir. Donc Satan allait être écrasé. Quand les prophètes étaient là, Satan n'était pas écrasé. C'est pourquoi ils avaient du mal à chasser les démons. C'est pourquoi quand Jésus chasse les démons comme ça facilement, ils disent, mais c'est par Belzébul. Non, c'est parce qu'il est qui? Le Fils. On a lu, le Fils, il est quoi? Il est héritier de toutes choses. Donc, il a le même commandement que son papa a. Lui aussi, il est héritier de toutes choses. C'est pourquoi il pouvait dire aux démons, sortez! C'est le Fils. Il arrive dans la société, dans la compagnie. Toi, tu es licencié. Toi, tu es promu. Parce qu'il est le Fils. Il a l'autorité totale de son Père. C'est pourquoi Paul dit, maintenant, c'est par le Fils. Comprends, frères et sœurs, que ton salut maintenant vient par le Fils. Ce n'est pas par un prophète quelconque. Vous comprenez pourquoi des gens comme moi sommes choqués lorsque nous voyons que des gens croient plus à un pasteur qu'à Jésus. Nous sommes choqués quand nous voyons que des gens croient plus à un mouvement qu'à Jésus. Quand tu lis Hébreux chapitre 1er, tu ne peux être que choqué. Paul explique qu'avant c'était les prophètes, c'était des humains que Dieu a utilisés. Ésaïe 59, psaume 40, nous montre que ça n'a pas plu à Dieu, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est le Fils lui-même qui vient. Et qu'est-ce qu'il dit en Jean 8, 36? On va lire Jean 8, 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez complètement libre. Ou si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus dit, moi j'ai l'autorité totale. Un prophète peut te soulager. Mais moi, si je te libère, tu es vraiment... C'est fini, quoi. Le Fils. Si donc le Fils. Pourquoi il dit si donc le Fils? Mais c'est en référence à tout ce qu'on a dit. Le Fils existait avant déjà. Donc, il veut dire que moi, je ne suis pas une invention de maintenant. Tout ça, c'est moi qui ai créé. C'est pourquoi si c'est moi qui te libère, c'est bon. Tout a été créé par le Fils. Si le Fils te libère, t'as franchi, tu es réellement libre. Bien-aimé, que personne ne vous fasse négliger le Fils. Qui connaît le nom de Dieu et qui connaît le nom de son Fils? Proverbe 34. Tu ne peux pas ignorer le nom de son Fils. Si le Fils te libère, tu es complètement libre. Vous savez, nous avons, en tournant la page dans Jean chapitre 9, nous avons un épisode intéressant d'un homme qui a été libéré, d'un homme qui a été guéri, alors qu'il était aveugle, né. Lui-même, il affronte. Est-ce qu'on peut lire tout? Ça va être long. Bon, on lit quand même tout, c'est intéressant. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, et il lui dit quoi ? C'est ça qui nous intéresse. Il lui dit, « Crois-tu en qui ? Au Fils de Dieu. » Voilà. Cet homme avait déjà déclaré que Jésus était prophète. Est-ce que Jésus s'en est contenté ? Non. Ce n'est pas suffisant. C'est ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 1er. Avant, Dieu a parlé par les prophètes. Maintenant, il parle par le Fils. Il veut faire passer un message. Maintenant, c'est le Fils qui a pris contrôle des choses. Le Fils, tout est à lui. On va lire, pour finir notre prédication, on va lire sur Hébreux chapitre 1er, mais on n'en est pas encore là. Voilà, c'est le Fils. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Amen. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Est-ce qu'on adore un homme ? Non. On adore Dieu seul. Et il a adoré le Fils de Dieu. Pour tous ceux qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, il est Dieu, il est Fils de Dieu à la fois. C'est dit là clair, il adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà, Jésus est venu pour confondre les gens, le Fils de Dieu. Il s'est humilié en homme, les gens ont du mal à croire ça. C'est ainsi que les gens simples, eux, ils vont croire. Cet enfant-là, ce jeune homme a cru. Il était aveugle, maintenant il voit. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il dit c'est impossible, personne ne peut le faire si ce n'est Dieu lui-même. Jésus dit effectivement, mais je ne suis pas qu'un prophète, je suis le Fils de Dieu. Si tu crois en Jésus comme le prophète, tu es limité. Comme un prophète, tu es limité. Tu crois en lui comme un enseignant, comme beaucoup de gens qui sont dans l'église. Ils croient en Jésus comme un bon enseignant. La Bible est comme un livre d'histoire ou d'information. Vous êtes limité. Mais si tu crois Jésus comme le Fils bien-aimé, tu as tout. Puisque le Fils a autorité sur tout. C'est pourquoi il dit quoi dans Matthieu 28, 18 ? Tout pouvoir m'a été donné. Il dit, c'est moi le Fils. Tout pouvoir est à moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, quand nous devons fonctionner, nous devons fonctionner selon l'ordre que le Fils lui-même nous a donné. Donc, personne ne peut nous résister. Mais quand tu prends Jésus comme quelqu'un, un bon rabbin, un bon maître, un bon pasteur seulement, tu es limité. Tu cherches quelle technique de prière il va te donner, quelle technique il va te donner de lire la parole. Tu es limité. Mais quand tu sais que c'est le Fils de Dieu qui est avec moi, c'est fini. Tout est ouvert. Le Fils est venu régler le compte des forces des ténèbres. Il est venu régler le compte du péché. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. dans Jean 16, 33. Il a autorité. Nous avons deux passages à lire pour finir. Jean 20, 30 à 31. Qu'est-ce qui est dit? Je lis souvent ce passage-là parce qu'il est capital. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites pourquoi? Afin que vous croyiez que Jésus est le Messie. C'est bien, mais pas seulement ça. Qu'il est qui? Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je suis sûr que beaucoup vont dire, mais oui, mais nous, nous savons déjà ça. Oh. Savoir ça intellectuellement et savoir ça réellement, ce n'est pas la même chose. Sinon, Jean n'aurait pas écrit tout ça. Hein. Il écrit ça parce qu'il veut dire un message. Attention, ne prends pas seulement le miracle. Même les prophètes ont fait des miracles. Élisée n'a-t-il pas fait des miracles? Il a fait des miracles. Élie en a fait. Moïse en a fait. Mais si tu ne crois pas que Jésus et Christ est le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. C'est ça la différence. Tu es peut-être guéri de ton oreille, mais tu n'as pas la vie éternelle. Tu es peut-être, oui, guéri de ta jambe, mais tu n'as pas l'autorité des enfants de Dieu. Parce que c'est le Fils qui donne toute autorité. Et il dit dans Matthieu 28, 18 à 20, « Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est moi qui vous envoie. Tout pouvoir m'a été donné. » Marc 16, 17, il dit, « Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il dit, à partir du verset 15, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je vous donne maintenant l'instruction. Je vous donne l'autorité. C'est moi le Fils. J'ai toute autorité. Je suis héritier de tout. C'est moi qui gère. Tout ce qui est à mon Père, c'est moi qui gère. Maintenant, c'est moi maintenant qui vous donne l'ordre. Mais si tu vas servir Jésus, parce qu'il y en a qui disent, mon ministère, quel ministère? Nous servons le Seigneur selon son ordre. C'est le Fils qui nous a donné l'ordre. Et rien ne peut nous résister. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 10, 19? Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous résister parce que c'est lui le Fils. Donc quand tu chasses les démons, je te chasse au nom de Jésus. Il veut discuter. Nous, on a fait des délivrances. Le démon dit, je suis très fort. Vous ne pourriez pas me chasser. Non, on te chasse au nom de Jésus. Il finit par plier les genoux et fuir. Mais si tu viens dire, ah, j'ai reçu beaucoup d'enseignements, je te chasse. Ah, il va rigoler. Il va dire, mais c'est quoi tout ça? Mais si tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas au nom d'un pasteur, au nom de Jésus. Le Fils a toute autorité. Et mieux encore, il a enlevé à la croix, à Satan et aux forces des ténèbres, toute raison de gagner un combat quelconque. À la croix, il a triomphé d'eux. C'est pourquoi il est écrit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Frère, pourquoi cette exhortation? C'est dans la même logique que mon frère Jean. Il dit, ne soyons pas distraits par tous les miracles que Jésus a faits. N'entrons pas dans des doctrines multiples et diverses. Il dit, le but de tout, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il veut que chacun de nous, nous nous concentrions sur cela. Comprendre qui est le Fils. Connaître le Fils. J'avais promis qu'on allait lire Hébreux chapitre 1er pour tout finir. Comprendre ça. Qu'il est le Fils. Et que désormais, il a pris en charge le salut des enfants de Dieu. Il nous a sauvés et il nous a pris aussi en charge. Il dit, mes brebis sont dans ma main, personne ne peut les ravir de ma main. C'est lui le Fils, tu n'es pas entre les mains d'une église. Tu es entre les mains du Fils de Dieu. Il faut que tes conceptions changent. Maintenant, tu es en sécurité. Satan va dire, tu as péché, oui, mais le Fils a fait couler son sang. Son sang est de nature supérieure à celui d'un agneau. C'est lui le véritable agneau. Satan ne peut pas te tenir par un péché, le sang de Jésus efface. Le Fils brise les chaînes et dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé libérer les captifs. » C'est lui le Fils, il a reçu toute autorité. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné. Moi aussi, je vous donne ce pouvoir. » C'est le Fils. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. C'est le Fils de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par autre chose. Concentrons-nous sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Tout a été fait par lui. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc c'est Dieu lui-même. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Désormais, frère, la parole de Jésus, c'est ça que tu dois suivre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Amen. Il a purifié, il nous a purifiés de péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il est introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Le Fils a toute autorité. Le Fils a accompli la sanctification, la purification. Ici, assis à la droite du Père. Donc, il a tout accompli, c'est fini. Donc, mettons-nous tous derrière le Fils de Dieu. Mettons-nous tous derrière le Fils de Dieu pour le prendre aussi pour comme exemple. C'est ça l'homme que Dieu veut que nous soyons, comme son Fils. Que le Seigneur nous aide à aimer et à nous attacher au Fils et à tout ce qu'il dit. Au nom de Jésus. Amen.